Benjamin Netanyahou, vous le savez, est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à Washington et il rencontrera aujourd'hui le président Donald Trump. Les deux hommes semblent avoir de grandes attentes quant à cette rencontre. On va passer en revue les dossiers qui vont être abordés et ce, avec Isaac Franco, analyste politique et chroniqueur, bien sûr, de l'émission Chercher l'erreur sur Radio Judaïka. Il répond aux questions de Lucie Gilson.
Bonjour Isaac Franco.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Alors, Benjamin Netanyahou est aujourd'hui en visite à Washington. Il rencontrera le président Donald Trump dès demain. Tout d'abord, quels sont les enjeux un peu de ces discussions? Les deux hommes, j'imagine, vont nécessairement évoquer la deuxième phase de ce cessez-le-feu à Gaza.
Entre autres choses, je pense que les enjeux n'ont jamais été aussi importants dans les 14 déplacements du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. 14e invitation, c'est un record. Aucun leader mondial n'a été invité aussi souvent à Washington. Et cette invitation, si proche d'ailleurs de la prestation de serment de Donald Trump, envoie un message. C'est pour signaler la proximité entre les États-Unis et Israël. Rappelez-vous, il y a 4 ans seulement, Joe Biden avait mis presque un mois avant de téléphoner Benjamin Netanyahou, et il ne l'avait invité à la Maison-Blanche que 6 mois avant la fin de son mandat. Donc là, invité 8 jours après sa prestation de serment, lancer cette invitation officiellement à Benjamin Netanyahou 8 jours après son investiture, le 28 janvier, pour venir aux États-Unis le 4 février, c'est pour envoyer un message à l'ensemble de la région et au monde pour dire la proximité et la force de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Maintenant, de quoi on va discuter? Ben, vous en avez parlé, naturellement. On va parler de Gaza, on va parler du cessez-le-feu, de ces 3 phases, puisque la négociation pour la 2e phase commence aujourd'hui. Est-ce qu'on ira jusqu'à la 2e phase? Probablement, le Premier ministre israélien va essayer de changer les termes de la 2e phase de manière plus favorable à Israël pour obtenir dès la fin de la 2e phase la libération de la totalité des otages et l'engagement ferme des États-Unis qu'il n'est pas question que le Hamas continue d'exercer une quelconque forme de pouvoir à Gaza. On parlera également du fait que Israël se trouve en dehors de ses frontières au Liban et qu'il entend y rester probablement après le 18 février. Même chose en Syrie, puisque les Israéliens sont sur le côté syrien du mont Hermon. Et à Gaza, quelle sera la possibilité pour les Israéliens, dans un espace de la bande de Gaza, où les Israéliens pourront se manifester. Donc, il y a tout ça. Naturellement, en filigrane, probablement le problème le plus important, celui dont on parle le moins parce que ça n'a pas les faveurs des médias qui insistent sur l'urgence de l'après-guerre à Gaza, de ce processus de libération des otages contre des terroristes palestiniens des prisons israéliennes. Tout ça, c'est d'urgence. Mais derrière, en toile de fond, il y a la priorité absolue pour l'administration israélienne, c'est la menace que fait peser sur toute la région et au-delà de la région, toujours le même acteur, c'est l'Iran.
Et il y a quand même un autre élément, enfin en tout cas les bruits de couloir nous indiquent que Benjamin Netanyahou a quand même besoin de l'appui de Washington pour des affaires plus domestiques, qui est le maintien de sa coalition gouvernementale, n'est-ce pas?
Oui, ça fait partie. Il est évident que si Israël prend l'engagement de ne pas recommencer la guerre comme il l'a promis à son allié Smotrich, et que cet engagement israélien ne serait pas assorti d'une certitude que le Hamas ne cessera pas d'exercer le moindre pouvoir à la bande de Gaza, effectivement, il risque de perdre sa coalition. Il n'y a aucun doute. Et donc, s'il perd sa coalition, il y a de nouvelles élections, ce qui veut dire que Israël n'aura pas un gouvernement de plein exercice pendant un très grand nombre de mois, pendant une année cruciale de l'administration Trump. Parce qu'il faut savoir que l'administration Trump, Donald Trump, il a les mains libres pendant 2 ans. Jusqu'au mid-term. Alors, perdre des mois aussi précieux dans une campagne électorale israélienne dont on sait qu'elle est très très vive, est très conflictuel traditionnellement aux États-Unis, ce serait un crime. Donc il est important pour le Premier ministre de conserver sa coalition et d'obtenir de Donald Trump des garanties que le Hamas cessera d'exercer tout pouvoir. Comment on y arrivera, ça je l'ignore, enfin il y a quelques pistes, mais en tout cas prendre cette garantie que le Hamas n'exercera plus le pouvoir, qui est le seul argument pour vendre à Smotrich qu'il n'ait pas besoin de relancer la guerre, qu'on peut installer un cessez-le-feu permanent, puisque nous avons la garantie des États-Unis que le Hamas cessera d'exercer le moindre pouvoir. Comment va-t-on arriver à ce que le Hamas s'engage à quitter la bande de Gaza ou céder le pouvoir? Ben ça, il faudra faire appel aux alliés traditionnels des États-Unis, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et la Jordanie, qui, comme on l'a vu, sont menacés de devoir prendre des centaines de milliers de Palestiniens chez eux, ce qu'ils se refusent à faire. Alors, en échange de ce qu'ils se refusent à faire pour faire plaisir à Donald Trump, il faudra bien qu'il fasse quelque chose pour garantir aux Américains que le Hamas cessera de remplir le moindre rôle politique dans l'après-guerre à Gaza.
Alors, l'une des manières qu'on imagine, que Donald Trump imagine également, de lutter contre l'influence iranienne au Moyen-Orient, c'est de favoriser la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Le nouvel ambassadeur d'Israël aux États-Unis, il a l'air de penser que ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que c'est votre analyse également ?
Oui, je pense que tôt ou tard, parce que c'est l'intérêt des deux pays, et vous savez, les pays ne sont pas commandés par les sentiments, ils sont commandés par les intérêts. Oh, il se trouve que les intérêts de l'Arabie Saoudite et d'Israël sont convergents, ils ont un même ennemi, ils ont beaucoup de choses à partager, effectivement, au-delà des sentiments positifs et négatifs que ces États peuvent se porter l'un l'autre. Mais il y a un intérêt commun qui paraît tout à fait évident. Donc, cette normalisation va se faire. La question est de savoir à quelles conditions. Quelles seront les conditions qu'émettra l'Arabie Saoudite pour consentir à une normalisation de ses relations avec Israël. Dans un premier temps, on a pensé que c'était l'assurance donnée par Israël qu'il aurait un horizon politique pour une souveraineté palestinienne. J'apprends aujourd'hui qu'il se contenterait, mais je parle au conditionnel, qu'il se contenterait d'un cessez-le-feu permanent. Bien, maintenant les Israéliens pourraient donner des gages aux Saoudiens en disant que oui, dans un horizon indéfini dans le temps et dans un territoire non défini non plus, eh bien il pourrait y avoir une forme suffisamment flou, suffisamment vague de souveraineté palestinienne en Judée-Samarie et à Gaza. Et de cette manière, rassurer les Saoudiens et la population saoudienne à qui le régime devra vendre cette normalisation, que oui, il y a un horizon politique pour les Palestiniens. Et donc, il y aurait une normalisation. Ce qui aiderait évidemment, ce qui redessinerait la carte du Proche et du Moyen-Orient. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la population israélienne, depuis le 7 octobre, n'est pas prête à payer le prix de la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, du prix de la création d'un État palestinien. Ils sont 71%, j'ai lu un sondage hier dans la presse israélienne, qui disait que 71% de la population israélienne ne veut pas de normalisation avec l'Arabie Saoudite, si le prix à payer est la création d'un État palestinien en Judée-Samarie. Donc on voit qu'on est sur une corde très 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 mince sur laquelle il faudra marcher, mais normalisation in fine, il va y avoir, ce qui veut dire que sur le plan de l'islam sunnite, eh bien le Hamas sera isolé, et puis il faut isoler également l'islam chiite du Hamas. Et donc ça, c'est l'Iran. Quel est le choix que va faire l'administration américaine pour traiter le problème du programme nucléaire iranien? Est-ce que ça va être des négociations? Et si c'est des négociations, combien de temps va donner l'administration américaine à cette négociation avant de recourir à des moyens plus coercitifs? C'est ça la vraie question. Et je pense que ce sont les réponses à ces questions que Benjamin Netanyahou vient chercher à Washington.
Et si on revient, ma dernière question, Isaac Franco, si on revient sur cette deuxième phase de l'accord, les négociations s'ouvrent aujourd'hui, vous l'avez dit, Donald Trump s'est montré confiant, il a dit que ça progressait, enfin en tout cas que les relations entre Israël et les pays voisins progressaient. Est-ce que vous êtes confiant que cette deuxième phase va aboutir également ?
En tout cas, je pense que les Palestiniens, le Hamas, ne va pas commettre la bêtise de manquer à ses engagements. Parce que ce que cherche à faire le Hamas, c'est montrer aux Américains qu'il est un partenaire crédible, qu'il est capable de prendre un engagement et de s'y tenir et de le respecter scrupuleusement. Donc je ne pense pas que le Hamas fournira à Israël un prétexte pour recommencer la guerre. Je crois au contraire que le Hamas fera tout pour que cette deuxième phase se déroule comme prévu. Maintenant, il faudra savoir comment les États-Unis s'y prendront pour contraindre le Hamas à abandonner le pouvoir, à le déléguer à une autre forme politique et ne pas agir en sous-main. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reproduire dans la bande de Gaza ce qui s'est passé longtemps et qui se passe encore d'ailleurs au Liban, où le Hezbollah n'est pas le gouvernement souverain, mais qui agit en sous-main. Vous imaginez, si le Hamas doit garder une influence à Gaza, c'est pas la peine d'avoir un quelconque gouvernement sous une quelconque étiquette, sous une quelconque forme, si en réalité, la véritable force qui gouverne la bande, c'est toujours le Hamas.
Eh bien, on continuera d'aborder ces questions avec vous, Isaac Franco. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chroniqueur à l'émission « Chercher l'erreur » diffusée tous les lundis soirs à 17h sur Radio Judaïka et analyste politique. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous, Lucie. Au revoir.